Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Alexandre Marlier.
Retour aujourd'hui sur une série de 1999. Action est donc arrivée sur les écrans de la Fox, un peu par hasard. C'est pas tout à fait le genre de série qu'on s'attendait à voir sur une chaîne conservatrice de ce type-là. Action raconte un peu les coulisses du monde du cinéma et de l'industrie cinématographique. À son casting, Jay Moore, Ileana Douglas ou encore le cultissime Buddy Hackett, mais si, souvenez-vous, le mécanicien dans Un amour de coccinelle. Et aujourd'hui, pour nous parler de cette série très déjantée, produite par Joël Silver, c'est Tilman Villette.
Bonjour.
Et pour en discuter avec nous, Sarah Sepulcre et Stéphanie Chavagne.
Bonjour.
Donc Action, ça fait partie un peu de la longue liste des séries qui ont été annulées très rapidement, donc après une saison. Et encore, 8 épisodes ont été mis sur antenne, mais il y avait quand même 13 épisodes à la base. Pourquoi Action n'a-t-il pas soulevé les foules en termes d'audimat? On pourrait penser que le scénario était peut-être trop offensif, corrosif, parce qu'il faut quand même savoir que c'est quand même une critique très acerbe du milieu du cinéma. Ou alors, il était peut-être trop en avance sur son temps. C'était 99, donc il ne faut pas oublier que ça remonte quand même presque 10 ans. Ou bien, tout simplement, on ne lui a pas laissé le temps. Alors, on va revenir sur ces questions un peu plus tard, et on va d'abord regarder de quoi est composée Action. Pour revenir sur l'histoire, Action, donc c'est l'histoire en fait de Peter Dragon, qui est un producteur de cinéma, qui est une sorte de résultat d'un accouplement un peu monstrueux entre Jerry Bruckheimer et Joel Silver, qui est d'ailleurs ici le producteur de la série, qui lance son nouveau film Slow Torture, qui fait un bide monumental, tout simplement, qui est laminé par les critiques, qui fait un flop au box-office. Peter Dragon, il est vraiment dépité, il perd tous ses investisseurs, et donc la première saison revient à chaque épisode sur une des étapes d'une création de film. Pour remonter la pente, justement, il sera aidé par de nombreux personnages. On parlera également de Wendy, qui est une ancienne enfant star, un peu Disney star à la Britney Spears, qui est devenue prostituée avec le temps, et qui viendra son assistante parce qu'elle a un flair assez remarquable pour trouver les scénarios d'intérêt. Et alors également Adam, qui est le scénariste prodigieux sur lequel Wendy flash pour ses écrits. Mais bon, il est également un peu psychologiquement instable, un peu hypochondriaque, et donc ce trio un peu brinque-ballant va essayer de mener à bien leur nouveau film avec toutes les embûches que Hollywood peut semer.
Il faut dire aussi que la série se mord un peu la queue puisque Aidan justement est avant tout un auteur de sitcom.
Voilà, le traitement d'Action, c'est vrai qu'on est un peu entre la série et la sitcom par moment. Aidan est un scénariste de sitcom qui passe le cap de faire un scénario de film. On va voir durant les épisodes que son écriture est un peu brinque-ballante également malgré son talent. Des visages connus, bien sûr, dans Action. Donc on peut tout d'abord parler du héros, donc Peter Dragon, qui est joué par Jay Moore, qui est vraiment une tête bien connue des amateurs de télévision. On a pu le voir dans de nombreux épisodes du Saturday Night Live. Il a participé en tant qu'acteur et scénariste, mais également dans des séries comme l'éphémère Fastlane avec la pulpeuse Tiffany Amber Thiessen, et quelques épisodes également de West Wing ou bien de Ghost Whisperer aux côtés de Jennifer Love Hewitt. Au cinéma, on a pu également le voir dans Jerry Maguire avec Tom Cruise ou bien Small Soldiers de Joe Dante. En producteur de films dans Action, il est quand même assez réjouissant parce que même si c'est vrai qu'il n'a peut-être pas d'énormes qualités en tant qu'acteur vraiment, son physique et ses mimiques collent vraiment parfaitement au producteur parce qu'en même temps, c'est un producteur ambitieux, aux dents longues, un peu colérique, mais pas très courageux. Un peu quark, aime bien fuir un peu le conflit, et donc son visage finalement qui est assez propre sur lui, ça passe plutôt bien.
C'en est au point moi que quand je regarde de temps en temps des épisodes de Ghost Whisperer, je me dis tiens, peut-être qu'il va nous sortir une remarque cynique ou quoi. Ça ne va pas parce que pour le moins là, le rôle qu'il a dans cette série est vachement moins intéressant, et je me dis mais quel contre-emploi, quoi, c'est dommage.
Oui, parce que dans la série il a vraiment un humour pince sans rire qui est vraiment réjouissant. Alors à côté de lui, donc on a Ileana Douglas qui est également un visage assez connu des amateurs de télé. Donc on a ces petits rôles dans Ugly Betty, mais également au ciné, dans les très mauvais Plutonache avec Eddie Murphy, ou alors Un couple presque parfait avec Madonna, mais également dans Ghost World avec Scarlett Johansson. Elle également donc joue un personnage un peu déjanté, une ancienne prostituée qui devient assistante, qui continue en parallèle un petit peu son métier. Ça c'est très drôle, notamment donc au début de la série, dès le premier épisode, les deux personnages couchent ensemble, mais avec un rapport client-prostituée, et finalement ça n'empêche pas d'avoir une amitié par la suite et d'avoir toujours une petite tension amoureuse entre les deux, qui est plutôt bienvenue, qui désamorce parfois un peu le côté un peu trop mordant, corrosif de la série justement. Et alors bien, le fameux Buddy Hackett, lui qui joue un des assistants aussi de Peter Dragon, qui a également fait beaucoup de doublage en fait dans les films d'animation.
Peter,
t'as changé de coiffure, je peux entrer?
Peter, je suis avec un client.
Je sais pas qui c'est, mais vire-le. Je connais cette voix.
Non.
Si, je suis sûr de connaître.
Non, Peter, non, arrête, Peter, je te dis non.
C'est Lloyd Bellwether de Disney.
Ah non, vous faites erreur.
Mais si, Lloyd, arrête tes conneries, c'est moi, c'est Peter, Peter Dragon.
Je m'appelle André.
André? C'est mignon comme prénom, mais c'est pas terrible pour une femme de ménage.
Bon, arrête, Peter. Est-ce que je débarque dans ton bureau quand t'es en train de travailler?
Eh ben ça alors, je m'attendais vraiment pas à ça, des gens de Disney. Non mais tu te rends compte, qu'est-ce que dirait tonton Walt, hein?
Bon, allez, Peter, reste pas là, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?
C'est toi que je veux.
C'est moi que tu veux?
Ouais.
Alors tu vas t'en aller et tu repasseras dans une heure. J'en aurai terminé avec ce type et en plus la maison sera nickel.
Dans une heure? Mais j'ai encore les carreaux à faire.
J'en ai rien à foutre. Écoute, Wendy, j'aimerais que tu travailles pour moi. Je te propose un job et pas comme prostituée, non. Je veux que tu sois producteur délégué de mes films. Ce qui n'est qu'une autre forme de prostitution, mais sans que tu te serves de ton corps. C'est toi qui as repéré le Beverly Hills Gang Club. Je serais mort sans toi. Viens travailler pour moi au programme de production, je t'en supplie.
Tu es en train de m'offrir un travail régulier comme productrice chez les films Dragonfire.
Ouais, tu le mérites. Tu es rapide, tu es brillante, tu as un instinct très sûr et tu as déjà plein de relations utiles dans le milieu, comme ce cher...
André.
Ouais, comme ce cher André. Sérieusement, écoute, quand je me suis retrouvé dans la merde, tu étais la seule à rester sympa avec moi. Tu m'as parlé comme à un être humain, sans me cirer les pompes, sans me passer la brosse à reluire. Tu comprends, Wendy, j'ai confiance en toi parce que je sais que nous, on se complétera bien.
Je déteste les gens qui prennent des dialogues minables de films de série B et qui essaient de les replacer dans une vraie conversation.
Franchement, Wendy, je m'en fous complètement. Tu peux rester prostituée et t'humilier en faisant ton travail, ou tu peux devenir producteur délégué dans le cinéma et t'humilier en faisant carrière.
Je suis flattée, je t'assure, mais
je ne sais
pas,
mais sois réaliste au moins. Combien peux-tu gagner avec ça? Moi, je te propose le double.
L'année dernière, je me suis fait 273 000 dollars.
D'accord, bon, je sais pas. Tu peux peut-être garder tes meilleurs clients.
J'aime bien cette idée.
Bon, je vais te laisser ma carte. On a une réunion de production au studio demain matin. Si jamais tu veux le job, viens demain, il est à toi.
Je vais y réfléchir.
C'est ça, pense-y. D'accord. Lloyd, on déjeune demain?
Bien sûr, Peter, attends que je regarde mon... Oh!
Merde!
Ces gens de Disney, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons?
Si on fait pas nécessairement tout à fait dans la finesse.
Non, alors clairement, l'humour est trash, ça vise toujours très bas, c'est vraiment toujours en dessous de la ceinture. Parfois, effectivement, ça marche, c'est drôle. Parfois, ça tombe un peu à plat, il faut quand même l'avouer. Mais la série est quand même, dans l'ensemble, plutôt bien écrite. Et donc, c'est clair qu'il y a toujours au moins une réplique qui va faire mouche et qui va vraiment être très, très, très drôle.
D'autant que la série est très speedée. On est vraiment concentré ici sur 20 minutes, voilà. Chrono en main. Et que donc, les scènes défilent à un rythme très élevé.
Ouais, ça va super vite. C'est une vingtaine de minutes par épisode. Et donc, c'est un avantage dans le sens où ça donne beaucoup de rythme à la série. Et on ne voit pas le temps passer. D'un autre côté, ça empêche peut-être parfois... aussi d'avoir un approfondissement de certains points, surtout par rapport au milieu créatif par exemple. C'est quand même assez survolé, on s'attarde pas vraiment à tous ces éléments là. C'est quand même dans l'ensemble une série qui est assez légère malgré tout. C'est présenté comme une satire du milieu hollywoodien, mais bon, on préférera utiliser des termes un peu choc, un petit peu facile pour faire rire, etc. Mais ça va pas très loin non plus, on va pas commencer à faire la critique vraiment à fond des films et des producteurs. Il y a également énormément en fait dans l'humour de name dropping. Ça c'est une chose vraiment récurrente dans la série, c'est que on va vraiment lâcher des noms de stars à tout bout de champ. Pour donner quelques exemples, on va parler par exemple de Glenn Close, dont la carrière est un petit peu à valo après les 100 Dalmatiens. Cameron Diaz, qui est vraiment pulpeuse, qui est bonne, on va utiliser le terme carrément.
Tout ce qu'on dit en fait dans les bureaux, quand les portes sont fermées,
exactement.
Là on les dit vraiment en face.
Quoi. On a l'impression vraiment de rentrer un peu dans les private jokes des producteurs et des acteurs. Anne Esch, qui en prend pour son grade, tout simplement, sa carrière a totalement floppé après son coming out. Donc, on y va franco et on prend pas de gants.
Anne Esch, elle jouait dans quoi ?
Anne Esch, c'est une actrice qui a joué dans plusieurs séries et également dans le film 6 jours et 7 nuits avec Harrison Ford.
Ah ouais,
mais qui a révélé son homosexualité, qui est sortie avec Ellen DeGeneres.
Est-ce que ça, c'est pas un peu dangereux ? Parce que si tu lances des choses comme ça, bon, ça fonctionne tant que Cameron Diaz est bonne, mais je veux dire, à partir du moment où elle a 40 ans, ça marche plus. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ?
C'est un peu dangereux, mais en même temps, la série, sur ce point de vue-là, l'a fait assez intelligemment parce que il semblerait qu'elle ait misé sur les bonnes personnes parce qu'on s'en souvient encore. La série, quand même, date de presque 10 ans et toutes les guests et tous les name-dropping, eh ben, marchent. Donc, il semblerait vraiment qu'il y ait un vrai travail d'écriture et ils ont tapé dans le mille, quand même, malgré tout. Alors, c'est vrai que, bon, après, sur le physique, sur le sex appeal, ça, de certains acteurs, on pourra peut-être en douter avec les années, mais en tout cas, encore maintenant, ça marche. Je parlais des guests. Dans Action, il y a une pléthore de guests, c'est assez hallucinant. Dans le premier épisode, on a Keanu Reeves, qui notamment se fait faire une gâterie en plein cinéma par Wendy, donc l'ex-prostituée. On peut aussi parler de Sandra Bullock, qui a une sextape avec Peter Dragon. Alors, on voit aussi que la série, là aussi, était un peu en avance sur son temps, parce que les sextapes, c'est devenu assez à la mode pour le moment et on voit donc Sandra Bullock qui se plaint finalement d'avoir une sextape qui fonctionne sur internet. On peut voir également Salma Hayek dans un épisode que Peter Dragon avait remballé puis essayé de draguer et se fait ramasser un vent monstrueux. Ou bien Scott Wolfe qui jouait dans La vie à 5 qui se fait remballer d'un casting tout simplement parce qu'il est trop petit. David Hasselhoff qui a une participation assez hilarante aussi.
Si je me souviens bien, il me semble qu'à l'époque ça, ce côté parler du milieu du cinéma, mais en parler avec des choses vraies, c'est-à-dire on n'inventait pas des noms et tout, il me semble que ça avait un vent de fraîcheur et assez neuf qui finalement a fait beaucoup d'émules parce que quand on réfléchit, on a Grosse Pointe qui a joué un peu sur ce genre de choses, mais on a aussi Larry et son nombril qui finalement partent du même genre de point de vue.
Fat Actress.
Qui est, on parle de nous-mêmes, mais j'ai l'impression que cette série avait la saveur d'être la première à le faire.
Tout en ne jouant pas non plus sur le phénomène de série-réalité. On prend des personnages réels, mais on les met dans une vraie fiction.
On voit vraiment que Action, c'était peut-être un précurseur en la matière de guests jouant leur propre rôle, mais ne montrant pas forcément la réalité non plus des choses. Mais là, par rapport à certains autres série qui insère des guests, Action a une certaine légitimité dans le sens où il parle du milieu du cinéma, donc ça paraît cohérent.
Oui, c'est pas Keanu Reeves qui va sur un bateau pour faire une croisière.
Voilà.
Soyons clairs.
Est-ce que tu parlerais de la croisière s'amuse?
Ah non, pas du tout.
On est par exemple loin de Britney Spears jouant dans Oh, I Met Your Mother pour faire exploser les audiences, par exemple. Même si ça a effectivement une incidence sur l'intérêt que la série peut avoir. Malgré
Donc je
tout.
Crois qu'au départ, lors de la diffusion, la présence de guests n'était pas annoncée, c'était plus une surprise,
oui, ouais.
Le petit cadeau pour le spectateur qui regarde la série.
Exactement, et donc dans les 8 épisodes qu'on a, c'est surtout dans les premiers épisodes en fait où on a des guests, et dans les derniers, les guests ne sont plus présents justement.
Ils sentent déjà le sapin.
Exactement,
dès le départ. Vous êtes corps ah Jimmy.
Hé, Kidou.
Ouais.
Comment tu trouves mon film?
Les explosions sont bien mieux que dans le dernier.
Oh oui, digital. Dis donc, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble un de ces jours.
Peter, je suis un peu ennuyé, je t'avoue.
Qu'est-ce qui t'arrive? Explique-moi.
Allez!
Ben, je suis un peu ennuyé que ta copine ait mis la main dans mon slip.
Je suis votre plus grande fan.
Ah, merci. Je sens que je commence à être un de vos fans, moi aussi.
C'est vrai.
Allez, allez, on enlève sa main et on lâche le petit Kinou. Oh, regardez mon film.
On en parle beaucoup de sexe, mais on en montre le moins possible.
C'est la Fox aussi, peut-être.
Voilà, peut-être également, mais ça parle de toutes les déviances sexuelles possibles, mais en montrant le moins possible.
Donc c'est plutôt trash dans le dialogue que dans l'action, c'est ça ?
Clairement, donc vraiment dans les dialogues, on va quand même parfois assez loin. Donc par exemple, quand Peter Dragon veut faire financer son nouveau film par un rabbin juif, donc il est dans la bijouterie de ce rabbin, il est devant un tas de diamants et il lui balance quand même un seul de ces diamants aurait suffi pour financer la liste de Schindler. Quand quand Wendy parle d'une de ses anciennes copines Kudjat en disant que c'était facile quand elle était sur son client pour se retourner. On voit vraiment que la série est assez trash, assez crue, mais pour autant, à part peut-être quelques scènes en sous-vêtements, on va pas très très loin non plus.
On voit des fesses par contre, on voit les fesses du principal financier qui semble-t-il un appendice assez proéminent et qui surprend tout le monde. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il intimide les gens. On voit quelques paires de fesses, mais à peu près tout.
On le voit de dos, oui. Il semblerait qu'il ait un engin plutôt assez énorme, dans le sens où les gens font toujours des yeux écarquillés quand ils le voient. Alors, ça va aussi parfois assez loin dans les thèmes, pour l'époque en tout cas. Donc, on aborde également l'homosexualité avec le coming out du super acteur de Slow Torture, qui décide de révéler son homosexualité.
Alias Richard Burgi, le fameux ex-mari de Suzanne dans Desperate Housewives.
Et ça, c'est marrant parce que c'est devenu un gimmick, ça. Dans Dirt aussi, si vous avez un acteur qui marche au box-office, vous pouvez être sûr que deux épisodes plus loin, il fait son coming out, qu'on doit cacher parce qu'il faut qu'il continue à rameuter les fans dans ses films. C'est vraiment des trucs stéréotypés.
On va finir par nous dire que Steven Seagal va faire son coming out.
Ah, j'ai rien dit, moi.
Mais là, c'est très drôle quand même parce que, en fait, Peter Dragon doit essayer de convaincre son ami acteur de révéler son homosexualité pour le virer tout simplement de son nouveau film d'action parce qu'il a plus envie que ça soit lui. Et pour le convaincre, il couche avec malgré tout. Il pète à personne et on remarque malgré tout qu'il a aimé ça en plus parce que ça le fait sourire et il dit son nom pendant qu'il est en train de dormir. Donc c'est quand même malgré tout présenté d'une façon assez drôle, assez humoristique. Pour parler un peu de la mise en forme des épisodes, il y a quelques petites particularités dans le sens où on entrecoupe souvent les scènes avec des images de mire ou bien d'anciennes images des années 60 pour montrer l'entracte ou des choses comme ça. Donc ça joue sur les codes de la télévision.
Il y a quelque chose de très bien foutu en tout cas dans cette série, c'est que toutes les scènes de transition qui sont inutiles, des scènes de voiture où on se déplace, ont été remplacées par un bandeau annonçant scène manquante encore à tourner ou un truc du style. Ce qui fait que ça augmente encore plus la rapidité de cette série et lui donne encore une plus grande pêche.
Exactement, et c'est ça qui donne un peu l'aspect sitcom aussi à la série, dans le sens où on voit les personnages finalement dans des pièces ou bien sur une terrasse ou des choses comme ça, mais on les voit pas faire des activités de la vie quotidienne par exemple. Il y a de nombreux ellipses quand même, on s'attache vraiment à l'essentiel. En même temps, la série dure 20 minutes, donc on va vraiment à fond. Alors finalement, pour donner mon avis, la série est drôle, ça c'est sûr, ça va pas toujours très loin non plus, ça vole pas toujours très haut non plus. Et pourquoi ça n'aurait pas pu marcher? Peut-être que c'était tout simplement un peu trop en avance sur leur temps, parce que finalement on dirait que la série ne date que de 2-3 ans, parce qu'elle a quand même plutôt bien vieilli dans l'ensemble. Peut-être également on peut parler d'un manque d'enjeu. C'est bien de voir la création d'un film, en même temps, ça n'intéresse pas tout le monde non plus. Et parfois, il y a des épisodes qui ressemblent un peu à des épisodes de remplissage. Ça, il faut bien l'avouer, où il se passe pas grand-chose, où les personnages stagnent un peu. Ça reste quand même aussi fort marqué Los Angeles, Hollywood. Donc c'est vrai que, en tant qu'Européens, on est peut-être moins touché par tout ça. Le name-dropping, tout le monde ne connaîtra pas forcément toujours les noms des acteurs, ou même les guests, Scott Wolf. Il faut aussi être intéressé par les séries. Et alors, c'était peut-être un peu trop trash également pour l'époque, parce que ça va vraiment loin, c'est acide.
Et puis on se dit que probablement, les 13 épisodes se suffisent à eux-mêmes, est-ce qu'on aurait pu continuer très longtemps sur cette série? Qu'est-ce qui aurait pu arriver par la suite? Un nouveau film. On revient de nouveau dans la même récurrence, donc un peu ce que Sarah avait dit lorsqu'elle avait fait son dossier sur Maximum Bob, où cette série, les 5 épisodes se suffisaient. Je crois que pour Action, les 13 épisodes sont bien, mais plus loin, ça aurait été un peu trop.
Oui, il aurait de toute façon fallu remanier le scénario ou arriver à d'autres pistes pour relancer la série, mais on se serait peut-être écarté vraiment alors de l'idée d'origine. Parce que c'est vrai que même avec 13 épisodes, ça tourne parfois un peu en rond. Il y a des épisodes qui ne servent pas à grand chose.
Il faut aussi dire que la série a été diffusée sur la Fox, alors qu'à l'origine elle était prévue pour HBO. La Fox a surenchéri bizarrement, ça a surpris tout le monde, même les producteurs qui l'indiquent dans les bonus des DVD qui sont donc sortis. Et donc probablement que ce côté trop trash a pu nuire à la pérennité de la série.
Ouais, bien sûr, mais en fait ce qu'il y a aussi, c'est que la Fox diffusant 8 épisodes, elle a peut-être pas non plus laissé la chance vraiment au show de s'installer et de commencer à attirer des personnes, parce que effectivement dans les 8 premiers épisodes il y a déjà des épisodes un peu inutiles. Donc si on avait au moins diffusé les 13 et voir après, ça aurait peut-être pu également changer. Alors je pense que le format également de 20 minutes n'est pas approprié pour cette série là il aurait fallu un format de 42 minutes, parce que c'est vrai qu'on survole quand même beaucoup malgré tout, même s'il y a des épisodes qui parfois sont creux, mais pas tous.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.